La parole des contes avec Anne Wang.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans notre émission La parole des contes. Et là, ici, comme ailleurs, nous sommes témoins de notre société de surconsommation où le quantitatif détruit le qualitatif, et de sorte que, à force de devoir toujours vous apporter de nouveaux contes, eh bien, celui-ci, il n'est pas terrible, puisqu'il reprend de nombreux thèmes et pas forcément bien exploités. J'espère que vous saurez m'en excuser, ne pas m'en tenir rigueur et que vous allez quand même vous amuser avec celui-ci. Donc, où il y a les petites chemises des trois femmes oiseaux, le jeune homme qui en dérobe une, elle ne peut plus voler sans sa petite robe. Et elle la réclame, lui, il fait du chantage. Après, il y aura trois géants qui se repassent le héros gentiment et qui lui permettent d'avancer plus vite. Et la ruse du héros qui fait croire qu'il est plus puissant que le géant. Et le lièvre, d'ailleurs, dans un autre conte, n'avait-il pas réussi à faire croire à un tigre qu'il était le plus fort de tous les animaux de la jungle? Et nous avons aussi le motif du baiser de l'oubli, des trois robes merveilleuses convoitées par l'épouse par erreur à cause de l'oubli, et les trois nuits en échange pour la prétendue épouse réelle, afin qu'elle puisse faire retrouver la mémoire à son promis et la femme qui est la seconde épouse, qui verse du narcotique. Enfin, voilà, pour qu'il n'entende rien ou ne fasse rien. Et puis l'anamnèse et le mariage entre les deux jeunes. Donc, place. Un jeune tambour se promenait tout seul un soir dans la campagne. Il arriva au bord d'un lac où il vit trois petits morceaux de lin blanc posés par terre sur le rivage. « Comme elle est fine, cette étoffe, s'étonna-t-il, en ramassant l'un des morceaux qu'il fourra dans sa poche. » Rentré chez lui, il ne pensa plus à ce qu'il avait trouvé et alla se coucher. Il était sur le point de s'endormir quand il lui sembla entendre comme une petite voix l'appeler par son nom. Il écouta et perçut en effet une voix ténue qui l'appelait « Tambour, tambour, réveille-toi » Il ne pouvait voir personne parce qu'il faisait nuit noire. Mais il eut l'impression que quelque chose, comme une silhouette, voletait autour de son lit. « Que veux-tu » demanda-t-il. « Rends-moi ma petite chemise, celle que tu m'as prise hier soir au bord du lac. »«
Ah, tu l'auras si tu me dis qui tu es !»«
Oh, je suis la fille d'un grand roi, mais je suis au pouvoir d'une sorcière qui me tient sur le mont de cristal. Je dois descendre chaque jour me baigner dans le lac avec mes deux sœurs, mais sans ma chemisette, il m'est impossible de m'en retourner. Mes sœurs sont reparties, et moi j'ai dû rester. Je t'en prie, rends-moi ma chemisette. »
« Sois tranquille, je te la rends bien volontiers. »
Et il la sortit de sa poche pour lui tendre dans l'obscurité. Elle la lui prit bien vite et voulut s'en aller.
« Attends une minute, peut-être puis-je te secourir. »
« Oh, tu ne pourrais pas m'aider. Ou alors, en venant sur le mont de cristal, me délivrer et m'enlever au pouvoir de la sorcière. Mais tu n'arriveras pas au mont de cristal, et même si tu y arrivais, tu pourrais pas en faire l'escalade. »«
Et qui te dit que je peux pas, hein? Je peux ce que je peux, et tu ne sais pas, et moi non plus, je ne sais pas. Mais... « sache que ton aventure m'émeut. Je ne connais pas le chemin qui mène à ton monde cristal. »«
Le chemin traverse la grande forêt où demeurent les ogres. C'est tout ce que j'ai le droit de te dire. »
Puis il lui sentit qu'elle était partie. Dès la pointe du jour, le tambour se mit en route après avoir bouclé le collier et la cuissière de son tambour.
Il s'en alla tout droit, sans peur, dans la grande forêt.
Comme s'il s'y était avancé depuis un bon moment, sans voir aucun géant.
« Ah, c'est paresseux !» se dit-il. « Il faut que je les réveille !»
Il prit ses baguettes, mit son tambour en position et battit un roulement qui fit s'envoler à grands cris tous les oiseaux nichés dans les arbres. Puis, un géant, qui s'était allongé dans l'herbe et qui dormait, se réveilla, se mit debout. Ah, il était aussi grand qu'un sapin.
« Gredin, qu'est-ce qui te prend de venir tambouriner par ici en m'arrachant à mon meilleur sommeil ?»«
Eh, si je bats du tambour, c'est parce qu'ils sont des milliers et des milliers derrière moi auxquels j'indique le bon chemin. »
« Eh, que viennent-ils faire par ici dans ma forêt, ceux-là ?»«
Ils viennent pour te tuer et pour débarrasser la forêt du monstre que tu es. »
« Je vous écraserai tous comme des fourmis !»«
Ah oui, parce que tu t'imagines peut-être pouvoir faire quelque chose contre eux. Quand tu te baisseras pour en saisir un, il t'échappera, il courra se cacher. Et dès que tu seras couché et endormi, ils sortiront de partout pour te grimper dessus et comme ils ont tous un marteau d'acier passé dans la ceinture, ils te défonceront le crâne !»
L'humeur du géant s'assombrit.
« Oh, si j'ai affaire à cette humanité rusée, se dit-il, cela peut mal tourner pour moi.
Les loups, les ours, je les prends à la gorge, mais avec ces vers de terre, on ne sait jamais sur quel pied danser.
Écoute, petit bougre! Tu déménages d'ici. Je te promets de vous laisser en paix à l'avenir, toi et tes compagnons. Et si tu y souhaites encore quelque chose, dis-le. Je ne demande qu'à te faire gros plaisir.
Et t'as de longues jambes, dit le tambour. Et tu avances plus vite que moi. Alors, porte-moi jusqu'au monde cristal. Et je donne aux miens le signal de la retraite. Ils te laisseront tranquille ce coup-ci.
« Viens sur mon épaule, puceron, que je te porte où tu veux !»
Et le géant l'enleva de terre pour le poser là-haut sur son épaule où le jeune gaillard se mit à battre le tambour à cœur que veux-tu.
« Oh ! » Le géant pensa, « Il donne probablement le signal de la retraite aux autres. » Et il avança.
Et au bout d'un moment, il y eut un second géant.
Sur le chemin.
Et celui-là s'empara du jeune tambour pour se le mettre à la boutonnière avant de repartir à grandes enjambées.
Le tambour se cramponna à un bouton qui était gros comme une terrine,
s'installa confortablement et se mit à contempler gaiement le paysage à la ronde. Ils rejoignirent alors un troisième géant qui l'enleva de la boutonnière et le posa sur le bord de son chapeau. De là-haut, tout en se promenant comme sur un boulevard, le tambour avait vu par-dessus les arbres et quand il aperçut dans le lointain bleuté une montagne qui brillait, et il se dit « Ah, ça, c'est sûrement le monde cristal !» Et il ne se trompait pas. En quelques enjambées, le géant fut au pied de la montagne où il déposa son passager à terre. Le tambour réclama. Il voulait le porter jusqu'au sommet. Mais le géant secoua la tête, grommela quelque chose dans sa barbe et s'en retourna bien vite dans sa forêt. Se retrouvant là, tout seul, au pied de cette montagne qui était haute, au moins comme trois montagnes, et qui de plus était
poli et lisse comme un miroir. Le pauvre tambour ne savait pas comment atteindre le sommet. Il essaya bien d'en commencer l'escalade. Mais c'était impossible. Il retombait toujours en glissant. Comment faire ? Il restait là. Et au bout d'un certain temps, il aperçut deux hommes qui se battaient non loin de là. Il alla vers eux, comprit que les deux compères se disputaient à propos d'une selle qui était posée par terre devant eux et qu'ils voulaient avoir tous les deux. Il se rapprocha d'eux et leur dit « Mais et pourquoi vous vous disputez pour une selle alors que vous n'avez même pas de cheval ?»« Oh, la selle le vaut bien ! Qui s'y assied et fait le vœu d'être quelque part, serait-ce au bout du monde, s'y retrouve à l'instant même. Elle est à nous deux, et c'est maintenant mon tour, mais il ne veut pas me laisser monter. » « Ah, la dispute sera vite réglée !» annonça le tambour en s'en allant un peu plus loin, planter un bâton blanc en terre. « Voilà !» dit-il en revenant vers les deux, et la selle. Et le premier de vous deux qui atteindra au but, non vers le bâton planté, hein, sera le premier à monter. Attention, 1, 2, 3, partez. Tous deux prirent leur course. Ils n'avaient pas fait trois bonds que déjà le tambour avait enfourché la selle à ses pieds et faisait le vœu de se retrouver au sommet du Mont Cristal, où il se trouva presque avant d'être parti. Là-haut, sur la montagne, le sommet était plat, avec une vieille maison de pierre devant laquelle il y avait un grand vivier et derrière une forêt noire. Il ne vit personne, ni homme, ni bête, rien. Rien ne bougeait. Il n'y avait que le vent qui bruissait dans les arbres et les nuages qui défilaient en passant presque au ras de sa tête. Il s'avança jusqu'à la vieille maison, frappa à la porte, qui fut ouverte à la troisième fois par une vieille femme à la peau parcheminée et aux yeux rouges. Elle avait chaussé des lunettes sur son grand nez et elle le regarda fixement avant de lui demander « Qu'est-ce que tu veux ?» L'accueil, le couvert et le gîte. « Ouais, c'est ce que t'auras, si t'acceptes en échange de t'acquitter de trois tâches, » répondit la vieille. « Pourquoi pas ?» accepta le tambour. « Le travail ne me fait pas peur, si dur soit-il. » La vieille le fit entrer, lui donna son repas d'abord, et le soir, un bon lit. Au matin, quand il eut bien dormi, la vieille ôta le dé qu'elle avait à son doigt osseux et le tendit au tambour, en lui disant
« Allez, au travail à présent. Tu vas aller me vider le vivier, là, dehors, avec ce dé. Bah, il faut que t'aies fini avant la nuit, hein ?» et que tous les poissons soient rangés sur le bord par taille et par espèce.
Oh là, c'est un drôle de travail. »
Il s'en alla vers le vivier et commença à le vider. Il puisa tout au long de la matinée, mais avec un dé, qu'est-ce qu'on peut faire pour vider une telle quantité d'eau, même en puisant pendant 100 ans?
Oh, c'est inutile, pensa-t-il vers midi, et cela revient exactement au même que je travaille ou que je ne travaille pas. Alors il cessa, et s'assit par terre.
Une jeune fille arriva de la maison, lui apportant son repas dans un panier.
« Je te voilà si accablé, si triste. Qu'est-ce qui ne va pas ?»
Il leva les yeux sur elle, et vit qu'elle était ravissante.
« Ah, je suis incapable de venir à bout du premier travail. Qu'est-ce que cela sera avec les autres tâches ? Je n'étais venu que pour chercher une princesse qui doit habiter ici, mais je ne l'ai pas trouvée. Alors je vais m'en aller plus loin.
Reste ici. Je te soulagerai de ta peine. Tu es fatigué. Pose ta tête sur mes genoux et dors paisiblement. Quand tu te réveilleras, ton ouvrage sera achevé.
Elle n'eut pas besoin de lui dire deux fois, vous pouvez me croire. Dès qu'il eut fermé les yeux, la jeune fille fit tourner sur son doigt une bague et commanda. Les eaux en haut, et vous les poissons, sortons.
Les eaux s'évaporèrent aussitôt en une blanche brume qui s'en alla avec les nuages. Cependant que les poissons s'agitaient, frétillaient, sautaient sur le bord, où ils s'alignaient d'eux-mêmes, par rang de taille et par espèce. En se réveillant, le tambour vit avec étonnement que tout était fait. Sa tâche était accomplie. Et la jeune fille lui disait, « D'entre tous les poissons, il y en a un qui n'est pas rangé avec ceux de son espèce. Il est à part, tout seul. Quand la vieille viendra tout à l'heure et verra que tout est fait comme elle l'avait voulu, elle posera la question. Et celui-là, pourquoi est-il tout seul? Tu prendras le poisson et tu lui jetteras en pleine figure avec ces mots. C'était pour toi, vieille sorcière. T'as bien entendu. »
La vieille arriva en fin d'après-midi et quand elle eut posé la question.
Et celui-là, pourquoi est-il tout seul?
Il lui jeta le poisson au visage. Eh, c'était pour toi, vieille sorcière.
Elle fit celle qui s'était aperçue de rien,
ne pit pas mot,
et elle le regarda d'un œil mauvais. Le lendemain, par contre, elle lui dit
« Hier, tu l'as eu un peu trop belle. Il me faut te donner un travail un peu plus difficile. Tu auras aujourd'hui à m'abattre toute la grande forêt, à me fendre le bois en bûches de longueur égale et à le ranger en pile mesurée. Et ce soir, tout doit être fini. »
Elle lui donna une cognée, une masse et deux coins. Mais la cognée était en plomb, la masse et les coins en fer blanc. Au premier coup de cognée qu'il donna, la lame se tordit. Quand il voulut se servir des coins et de la masse, tout s'aplatit.
Il ne savait plus à quel expédient recourir, il était désespéré. Mais à midi, la jeune fille vint de nouveau lui apporter son repas et le réconforta. « Mets ta tête sur mes genoux et dors tranquillement. Quand tu te réveilleras, l'ouvrage sera terminé. »
Elle fit tourner sur son doigt la bague et instantanément, dans un craquement formidable, la forêt tout entière s'abattit, le bois se fendit, se coupa de longueur égale, se rangea de lui-même en piles bien cordées.
En un rien de temps, lorsqu'il se réveilla, la jeune fille lui dit « Tout le bois est coupé et rangé, il reste une branche à part. Ce soir, quand viendra la vieille, elle te demandera « Pourquoi cette branche ?» Et tu l'en frapperas en disant « Elle est pour toi, vieille sorcière !» Tu as bien compris ?
Vers la fin du jour, la vieille arriva et lui dit
« Ah, vois-tu ? Combien la tâche a été facile! Et cette branche là, qui reste là, pour qui est-elle?
Pour toi, vieille sorcière!
Lui dit le tambour en la cinglant avec la franche. Et la vieille feignit de n'avoir rien senti et ricana.
tout en lui disant
« Demain, à la première heure, tu me dresseras tout ce bois en un seul bûcher que tu m'allumeras et feras brûler !»
Le jeune tambour se leva de très bonne heure le lendemain et se mit à porter le bois pour le mettre en un tas. Comment un seul homme pouvait-il porter le bois de toute une forêt? Ce qu'il faisait n'était plus que rien. Et la jeune fille ne l'abandonna pas. À midi, elle lui apporta son repas, le laissa manger, puis lui fit mettre sa tête sur ses genoux et le laissa dormir. Lorsqu'il se réveilla, la formidable pile de bois flambait avec d'énormes langues de feu qui semblaient lécher le ciel. « Écoute-moi bien, » lui dit la jeune fille. « Quand la sorcière sera là, elle peut avoir toutes sortes d'exigences. N'aie pas peur et fais sans hésiter ce qu'elle te commandera. Ainsi, tu ne tomberas pas en son pouvoir et elle ne pourra rien sur toi. Par contre, si tu as peur, le feu te prendra et te dévorera. Et lorsque tu auras finalement tout fait, tu l'empoigneras, toi, de tes deux mains, et tu la jetteras dans le brasier ardent. Tu as bien entendu. La jeune fille s'en alla, puis la vieille arriva, comme en se glissant, et surgit devant lui.
Ouh, que j'ai froid! Mais avec ce bon feu qui brûle et qui réchauffe mes vieux os, ah, je me sens mieux, ouais. Mais je vois là-dessous une bûche qui ne veut pas se consumer. Va me la tirer de là, c'est tout ce que je te demande, et que tu m'auras fait cela. Tu seras libre, et tu pourras t'en aller où bon te semble. Allons, vas-y, entre dans le feu.
Sans perdre de temps à réfléchir, le tambour sauta en plein dans les flammes du formidable bûcher. Les flammes ne lui firent rien du tout et ne lui roussirent même pas un poil de ses cheveux. Il prit, ramena la bûche qu'il déposa devant la vieille, mais le morceau de bois avait à peine touché le sol qu'il se métamorphosait. Et voilà que c'était la ravissante jeune fille qu'il avait secourue dans ses épreuves, qui était là maintenant, debout, devant lui. Et à la voir tout habillée de fine soie comme elle était, il lui était facile de comprendre que c'était une princesse. La princesse.
Tu t'imagines peut-être que tu vas la voir, mais tu la tiens pas encore.
Elle eut un rire plein de fiel. Mais au moment qu'elle voulait s'emparer de la jeune fille pour l'emmener, le tambour se jeta sur elle, l'empoigna à deux mains et la précipita dans le feu, la lançant de toutes ses forces jusqu'au cœur du brasier qui l'engloutit avidement. La princesse tourna alors ses regards vers le jeune tambour et vit que le héros qui n'avait pas hésité à jouer de sa vie pour sa délivrance à elle était un jeune homme très séduisant. « Tu as tout risqué pour moi. » Elle lui tendit la main. « Je veux aussi tout faire pour toi. Tu seras mon époux. » Elle le mena dans la maison devant des coffres où s'empilaient trésors, richesses qui laissèrent, pour n'emporter que quelques pierres précieuses. Elle ne voulait pas rester un instant de plus sur le mont Cristal. Elle lui dit « Mais viens t'asseoir sur ma selle et nous allons voler pour descendre comme des oiseaux. » « Cette vieille selle ? Oh, elle ne me plaît guère. »
« Il me suffit de faire tourner ma bague et nous nous trouverons à la maison. »«
Très bien, » dit le jeune tambour. « Mais arrêtons-nous aux portes de la ville. » Dans le même instant, ils s'y trouvèrent transportés. Et le tambour lui dit Attends-moi ici un moment, je vais d'abord passer donner de mes nouvelles à mes parents et je reviens.
Oh, je t'en supplie, fais bien attention. Et ne les embrasse pas sur la joue droite en arrivant chez toi, sinon,
tu oublieras tout. Et moi, je resterai seule et abandonnée dans la campagne.
Comment pourrais-je t'oublier ?
Il lui promit. Personne ne le reconnut quand il entra dans la maison paternelle, tant il avait changé, car les 3 jours qu'il avait passés sur le monde du cristal avaient été, dans la réalité, 3 longues années. Quand il leur dit qui il était, ses parents lui sautèrent au cou, fous de joie, et lui-même, dans son émoi, les embrassa sur les 2 joues, sans penser à ce qu'il avait promis à la jeune fille. Et aussitôt, il oublia tout. La princesse, leur histoire. Il vida ses poches, déposa par poignées ses pierres précieuses, émerveillant ses parents, mais il ne savait plus d'où venait-elle. Le père finit par se faire construire un magnifique palais, tout entouré de jardins, de parcs, de prés, de forêts. Lorsque le château fut terminé, la mère dit à son fils qu'elle lui avait trouvé une fiancée et que les noces seraient célébrées dans 3 jours. Lui ne demandait pas mieux que de faire plaisir à ses parents, en toute chose. Quant à la princesse, de son côté, elle était d'abord restée longtemps devant les portes de la ville à attendre. Et comme le soir venu, il n'était pas revenu, elle a deviné qu'il s'était fait embrasser sur la joue droite et qu'il l'avait oublié. Un grand chagrin entra dans son cœur. Et elle ne voulut pas retourner chez son père. Et elle fit le vœu, en tournant son anneau magique, de se retrouver dans une maisonnette isolée en plein bois. Elle allait pourtant chaque jour à la ville et passait devant la maison du jeune tambour, qui la voyait parfois sans la reconnaître. Un jour arriva qu'elle entendit les gens parler du mariage et dire « Les noces seront célébrées demain !» Encore plus malheureuse, oh, il faut que j'essaye de le reconquérir. Et le lendemain, premier jour de la grande célébration nuptiale, elle tourna sa bague. Je souhaite une robe de soleil, aussi étincelante. La robe fut devant elle au même instant, aussi éblouissante que si elle avait été tissée par les rayons du soleil. Une fois que tous les invités furent arrivés, la princesse fit son entrée dans la salle. Et tout le monde s'émerveilla de sa splendide robe et de sa grande beauté. La fiancée, qui avait toujours n'y pu tenir, elle alla à la rencontre de cet inconnu et lui demanda si elle consentirait à lui vendre sa robe qu'elle voulait acheter à tout prix. « Oh, je ne la céderai pas pour de l'argent. Mais si j'obtiens la permission de passer cette première nuit devant la porte de la chambre où dormira le fiancé. » Poussée par son désir, la fiancée donna son consentement. Elle versa aussi un narcotique dans le vin du jeune homme qui fut plongé dans un épais sommeil. Au milieu du silence de la nuit, la princesse s'accroupit devant la porte, l'entrebâilla légèrement et appela. « Tambour, tambour, écoute-moi. Ne te souvient-il plus de rien ?» Né du monde de cristal où nous étions ensemble, de la sorcière dont je t'ai sauvegardée, de la sorcière que tu as jetée dans le feu pour nous libérer. Tambour, tambour, rappelle-toi. Le tambour ne se réveilla point et le matin vint, obligeant la princesse à s'en aller, sans résultat aucun. Dans la soirée de ce 2e jour, elle tourna son anneau et dit « Une robe de lune du même argent. » Et aussitôt, la robe était là. Elle la revêtit, alla à la fête, et la fiancée ne put résister à son envie de posséder cette robe en échange de la permission qu'elle accorda pour la 2e nuit. Et de nouveau, dans le silence nocturne, la princesse appela. Tambour, tambour, écoute-moi. Ne te souvient-il plus de rien? Du mont Cristal où nous étions ensemble, de la sorcière dont je t'ai sauvegardée, de la sorcière que tu as jetée dans le feu pour nous libérer. Tambour, tambour, rappelle-toi. Le tambour assoupi par le narcotique dormait d'un sommeil impénétrable, et au matin plus triste que jamais, la princesse dut s'en retourner à sa petite maison de bois. Il y avait des domestiques dans la maison qui avaient entendu la plainte de la princesse et qui en parlèrent à leur jeune maître en leur disant aussi qu'il n'avait rien pu entendre parce qu'il avait été drogué et qu'il y avait un narcotique dans son vin. Aussi, ce même soir, qui était le troisième de la fête, la princesse, de son côté, demanda, en tournant sa bague, une robe d'étoile. Et le prince jeta le narcotique. Quand la nuit fut venue, à la fête, la princesse, revêtue de sa robe d'étoile, fit sensation, et la fiancée, éblouie, ne put résister. « Oh, cette robe, je la veux, je l'aurai. » Elle demanda, et comme les nuits précédentes, elle accorda la princesse la robe à la condition de passer la nuit devant la porte du jeune homme, du jeune tambour. Et là, elle appela, « Tambour, tambour, écoute-moi, ne te souvient-il plus de rien? Ni du monde cristal où nous étions ensemble, de la sorcière dont je t'ai sauvegardée, de la sorcière que tu jetas dans le feu pour nous libérer. Tambour, tambour, rappelle-toi. » Et d'un seul coup, la mémoire lui revint, tout le fil de ses pensées. « Oh, comment ai-je pu manquer de loyauté? Comment? Mais c'est ce baiser que j'ai donné sur la joue droite de mes parents. Il m'a ensorcelé. Il courut à la porte prendre la princesse par la main et la conduisit jusqu'au lit de ses parents qu'il réveilla pour leur dire « Voici celle qui est ma véritable fiancée. En épousant l'autre, je commettrai une grave injustice. » Les parents ne lui refusèrent pas leur consentement une fois qu'ils surent comment s'étaient passées les choses. Ils firent illuminer la salle des fêtes. On appela les musiciens, tous les invités, parents, amis, et la fête joyeuse recommença pour célébrer les véritables noces. Cette fois, la précédente fiancée se fit offrir à titre de consolation et d'excuse les trois robes qu'elle aimait tant, et elle s'en contenta. Et le mariage fut magnifique et somptueux entre la princesse et le jeune tambour qui avait retrouvé sa mémoire. Eh bien, charmants auditeurs, charmantes auditrices, merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Et je vous souhaite une joyeuse semaine. Et à la semaine prochaine, car ça en vaut la peine.